Aristote, Métaphysique, livre 4, chapitre 3. Nous avons à dire si l'étude de ce que dans les mathématiques on appelle axiome et celle de l'essence dépendent d'une science unique ou de sciences différentes. Or, il est évident que ce double examen est l'objet d'une seule science et que cette science, c'est celle du philosophe. En effet, les axiomes embrassent sans exception tout ce qui est, et non pas tel ou tel genre d'être pris à part à l'exclusion des autres. Toutes les sciences se servent des axiomes, parce qu'ils s'appliquent à l'être en tant qu'être, et que l'objet de toute science, c'est l'être. Mais elles ne s'en servent que dans la mesure qui suffit à leur dessein, c'est-à-dire autant que le comportent les objets sur lesquels roulent leurs démonstrations. Ainsi donc, puisqu'ils existent en tant qu'êtres dans toute chose, car c'est là leur caractère commun, c'est à celui qui connaît l'être en tant qu'être qu'appartient aussi l'examen des axiomes. C'est pour cette raison qu'aucun de ceux qui s'occupent de sciences partielles, ni le géomètre, ni l'arithméticien, ne cherche à démontrer soit la vérité, soit la fausseté des axiomes. J'en excepte quelques-uns des physiciens, et cette recherche rentrait dans leur sujet. Les physiciens sont en effet les seuls qui aient prétendu embrasser dans une science unique la nature tout entière et l'être. Mais comme il y a quelque chose de supérieur aux êtres physiques, car les êtres physiques ne sont qu'un genre particulier de l'être, c'est à celui qui traite de l'universel et de la substance première qu'il appartiendra aussi d'étudier ce quelque chose. La physique est bien une sorte de philosophie, mais elle n'est pas la philosophie première. D'ailleurs, dans tout ce qu'ils disent sur la manière de reconnaître la vérité des axiomes, on voit que ces philosophes ignorent les principes mêmes de la démonstration. Il faut, avant d'aborder la science, connaître les axiomes. Ce n'est pas dans le cours de la démonstration qu'on peut les trouver. Évidemment, c'est au philosophe, c'est à celui qui, dans toute son essence, étudie ce qui constitue sa nature même, qu'il appartient aussi d'examiner les principes syllogistiques. Connaître parfaitement chacun des genres d'être, c'est avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir donner les principes les plus certains de chaque chose. C'est donc celui qui connaît les êtres en tant qu'être qui possède les principes les plus certains des choses. Or, celui-là, c'est le philosophe. Le principe certain par excellence est celui au sujet duquel toute erreur est impossible. En effet, le principe certain par excellence doit être et le plus connu des principes, car toujours on se trompe sur les choses qu'on ne connaît pas, et un principe qui n'est rien d'hypothétique, car le principe dont la possession est nécessaire pour comprendre quoi que ce soit n'est pas une supposition. Enfin, le principe qu'il faut nécessairement connaître pour connaître quoi que ce soit, il faut aussi le posséder nécessairement pour aborder toute espèce d'étude. Mais ce principe, quel est-il ? C'est ce que nous allons dire. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas au même sujet, dans le même temps, sous le même rapport, etc. N'oublions ici, afin de nous prémunir contre les subtilités logiques, aucune des conditions essentielles que nous avons déterminées ailleurs. Ce principe est, disons-nous, le plus certain des principes. C'est celui-là qui satisfait aux conditions requises pour qu'un principe soit le principe certain par excellence. Il n'est pas possible, en effet, que personne conçoive jamais que la même chose existe et n'existe pas. Héraclite est d'un autre avis selon quelques-uns. Mais tout ce qu'on dit, il n'est pas nécessaire qu'on le pense. Que si d'ailleurs il est impossible que le même être admettent en même temps les contraires, et il faut ajouter à cette proposition toutes les circonstances qui la déterminent habituellement, et si enfin deux pensées contraires ne sont pas autre chose qu'une affirmation qui se nie elle-même. Il est évidemment impossible que le même homme conçoive en même temps que la même chose est et n'est pas. Il mentirait donc celui qui affirmerait qu'il a cette conception simultanée, puisque, pour l'avoir, il faudrait qu'il eût simultanément les deux pensées contraires. C'est donc au principe que nous avons posé que se ramènent en définitive toutes les démonstrations. Il est, de sa nature, le principe de tous les autres axiomes.